19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, nous allons, vous savez quoi, tout simplement revenir sur les événements d'actualité qui ont secoué la journée et on va clore cette semaine en essayant de commenter au mieux, analyser et puis décrypter l'actualité. Vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000, vous nous appelez et vous passez en direct, vous le savez, durant toute l'émission. Alors au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur Robert Badinter. S'agit-il d'un géant qu'on a perdu? Évidemment, le décès de Robert Badinter. Robert Badinter, ex-garde des Sceaux, ex-ministre de la Justice, est mort à 95 ans. Quel héritage a-t-il laissé? Nous en parlerons et on reviendra sur ce sujet avec Michel Taube, qui l'a connu justement. Et Michel Taube, rappelons-le, qui a embarqué une association Ensemble contre la peine de mort, dont il est le président. Remaniement gouvernemental, nous reviendrons sur évidemment cette actualité, on reviendra aussi sur Toulon, SOS Médecins qui ne se rendra plus désormais dans certains quartiers. Justement, on a une fréquence à Toulon et certains auditeurs souhaitaient réagir. Nous en parlerons justement avec vous aussi, vous les auditeurs. On reviendra aussi sur ces frappes massives d'Israël sur Rafah, Netanyahou qui demande un plan d'évacuation, mais surtout les États-Unis qui lancent une espèce d'alerte qui dit là, effectivement, qui reconnaissent à demi-mot que ça va un peu trop loin. Nous en parlerons et on reviendra sur cette actualité. Écoutez, bah c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Michel Taube. Michel Taube, qui est le directeur fondateur d'Opinion Internationale, il est éditorialiste. Bonsoir, Michel Taube.
Bonsoir mon cher Adil, bonsoir aux auditeurs de Beur FM.
Alors ce soir vous êtes avec nous, ce soir, parce que vous avez connu Robert Badinter. Robert Badinter, mort à 95 ans. Vous, avec votre association Ensemble contre la peine de mort, justement vous avez édité un papier dans Opinion Internationale que j'invite tous nos auditeurs à aller le découvrir. Parlez-nous d'abord de ce papier, Michel Taube.
Alors, en fait, d'abord, merci de m'avoir proposé de m'exprimer pour rendre hommage à Robert Badinter. En fait, moi, je l'ai connu de 2000 à 2007, lorsque j'ai créé l'organisation Ensemble contre la peine de mort et organisé le premier congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg. Et à l'époque, évidemment, Robert Badinter, il était déjà une grande conscience, une grande personnalité française, un grand monsieur. Parce que c'est lui qui, en 1981, avait eu l'honneur de monter au perchoir de l'Assemblée nationale pour demander aux députés nouvellement élus, depuis l'élection de François Mitterrand quelques semaines avant, je demande l'abolition de la peine de mort. Et il a obtenu cette victoire de la justice sur, j'ai envie de dire, l'arbitraire et la barbarie dont la justice est parfois capable, après des siècles de combats pour obtenir l'abolition de la peine de mort. Il faut bien se dire, quand même, pour les auditeurs de Beur FM, beaucoup sont jeunes, que, en fait, pendant des siècles, en France, des personnes qui étaient accusées de meurtre pouvaient être condamnées à être guillotinées. Et être guillotiné, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, comme le disait Robert Badinter, prendre la décision qu'on va couper un homme en deux. Parce qu'en fait, la guillotine, ça consistait à couper un homme en deux. Et Robert Badinter avait complètement épousé cette cause de l'abolition de la peine de mort. Et il est celui qui a obtenu, grâce à François Mitterrand, évidemment, qui le soutenait, l'abolition de la peine de mort.
Alors qu'à l'époque, justement, les Français n'étaient pas favorables, justement. Rappelons-le, ça aussi.
Effectivement. Alors, en même temps, quelques semaines avant d'être élu, François Mitterrand, interviewé à l'époque par Alain Duhamel, avait dit, en son âme et conscience, que s'il était élu président de la République, il abolirait la peine de mort. Mais c'est vrai que les Français, vous avez tout à fait raison, Adil, les Français étaient contre l'abolition de la peine de mort à l'époque. Et il a fallu attendre 15 ou 20 ans pour que l'opinion publique, d'après les sondages, les études d'opinion, se convertisse à l'idée qu'effectivement, il ne faut pas rétablir la peine capitale. Robert Badinter, ça a été aussi un ministre de la Justice, il a été un grand avocat, il a défendu des condamnés à mort, il n'a pas toujours gagné d'ailleurs, parce que dans le premier condamné à mort qu'il a défendu, il n'a pas eu gain de cause. Son client Bontemps, c'était l'affaire Buffet-Bontemps, a été exécuté et après il s'est engagé de toute son âme, de toutes ses forces pour obtenir que d'autres condamnés à mort ne soient pas exécutés. Et ensuite, bah, Mitterrand a été élu, et il est devenu ministre de la Justice, garde des Sceaux, et à ce titre, il a obtenu l'abolition de la peine de mort. Ensuite, il a été également président du Conseil constitutionnel. C'est quelqu'un qui dont une grande partie de la famille est morte pendant la Shoah. Il s'est battu également pour que Klaus Barbie, ce Français qui avait fui en Amérique latine, soit jugé en France.
Alors, ce que je retiens aussi beaucoup, Michel Taubin, vous m'arrêtez, oui, évidemment, parce que je sais que vous l'avez connu, c'est qu'il a toute sa vie, hein, il a lutté contre les injustices. Il a lutté contre les injustices de toute forme, religieuse, sociale, etc., etc., etc. Hein, ça a été, c'est son ADN d'ailleurs, hein, il s'est tout le temps battu toute sa vie contre ça.
Il a par exemple fait retirer du code pénal toute pénalisation de l'homosexualité. Parce qu'en 1984, l'homosexualité était encore inscrite dans le code pénal comme étant une déviance et pouvant être condamnée. Donc il l'a fait retirer du code pénal. C'était vraiment une conscience en politique, ce qui est assez rare pour être souligné. Et c'est vrai que c'est un grand monsieur qui est mort. Certains, j'ai vu, demandent qu'il soit mis au Panthéon et qu'il reste dans... vraiment dans la mémoire des grandes personnalités de l'histoire de France. Voilà, c'est quelqu'un qui, encore une fois, était de très, très grande envergure. Alors, c'était un homme qui était...
Est-ce qu'on peut parler d'un géant quand vous dites grande envergure? Est-ce qu'on peut dire que un géant, effectivement?
Oui, c'était plus qu'un géant, je dirais, c'était une grande conscience.
Une grande conscience.
C'était une conscience. Ouais. C'était une conscience.
Qu'est-ce que vous gardez comme en tête lorsque vous l'avez rencontré, justement? Qu'est-ce que vous gardez en tête? C'est quoi les choses, évidemment, les mots que vous retenez de sa part, les échanges?
Écoutez, vous savez, moi j'ai beaucoup milité contre la peine de mort pendant 10 ans, de 2000 à 2010 à peu près. J'ai organisé par exemple à Paris le 3e congrès mondial contre la peine de mort et nous avions organisé une manifestation dans les rues de Paris et j'avais à ma droite Robert Badinter et à ma gauche j'avais Nicole Fontaine qui à l'époque était présidente du Parlement européen. Voilà, c'était quelqu'un qui était assez dur, très dur même, exigeant, qui ne souriait pas souvent, je trouvais, mais qui avait une grandeur d'âme et une éloquence absolument prodigieuse.
Pas souvent, qui ne souriait pas souvent, Michel Taub, mais parfois il aimait bien replonger et retrouver son côté adolescent, en lâchant parfois quelques vacheries comme ça, non?
Oui.
Paraît-il,
oui.
Hein.
C'était un homme qui était entier, qui avait... moi, je retiens surtout la grandeur d'âme de ce monsieur, son éloquence et le fait qu'il a épousé entièrement ce combat pour l'abolition de la peine de mort. C'est quand même cela qui restera principalement. Et j'ai envie de dire en creux, s'il est aujourd'hui autant respecté aussi, c'est parce que la France a mis très longtemps à abolir la peine de mort. Vous savez, en 1981, lorsque la France a aboli la peine de mort, on était un des derniers pays d'Europe occidentale à avoir aboli. Tous les autres pays voisins, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, avaient tous aboli la peine de mort. Donc nous, en France, vous savez, la justice, elle est dure dans notre pays. Les conditions de détention des détenus sont difficiles. Les budgets consacrés à la justice sont très faibles par rapport à d'autres pays. Donc si vous voulez, en France, la justice, c'est pas la principale qualité de notre démocratie. Et donc, Robert Badinter, il a un petit peu épousé cette cause-là, qui est celle, effectivement, de la justice. Et en ce sens, il va beaucoup manquer, évidemment. Après, il reste beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de chemin. Mais on gardera de lui, surtout, l'abolition de la peine de mort. Et encore une fois, une grande conscience, une conscience française, une conscience universelle. Je dois dire aussi que, par exemple, moi, j'ai beaucoup milité lorsqu'il y a eu la chute de Ben Ali en Tunisie. Et que, donc, dans le cadre d'Opinion internationale, de mon média Opinion internationale, je me suis beaucoup engagé pour la transition démocratique en Tunisie. J'avais organisé à Paris, au Théâtre de Jazet, une grande soirée de soutien à la Tunisie des Libertés. Et j'avais appelé Robert Badinter en demandant s'il voulait bien venir. Et il était venu. Et donc, il avait fait un grand discours dans un théâtre rempli de Tunisiens de France. Il y avait plus de 1000 personnes, c'était archi plein. Et Robert Badinter, qui n'avait aucun lien particulier avec la Tunisie, avait fait un grand discours en disant « Les Tunisiens ont droit, comme les Français, comme tout le monde, à la liberté, à la démocratie, à l'état de droit. » Vous voyez. Donc c'était un homme qui était très consulté, beaucoup en Afrique, qui voyageait beaucoup en Afrique pour aller conseiller sur la rédaction des constitutions, etc. Voilà, c'était vraiment une conscience française et universelle qui va beaucoup nous manquer. Et je pense, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aura un hommage national qui lui sera rendu, mais je pense que beaucoup militeront pour que ses cendres soient ailleurs au Panthéon. En tous les cas, voilà, c'est une grande perte et hommage à l'artiste.
Merci mon cher Michel Taube, évidemment, d'avoir accepté de parler de Robert Badinter. Vous l'avez connu effectivement. Merci de lui avoir, et vous lui rendez hommage avec un billet d'humeur que vous retrouvez dans Opinion Internationale. Merci, vous êtes donc éditorialiste, mais également aussi, rappelons-le, Michel Taube, le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Merci, au plaisir. Messieurs, un petit tour de table. Ali Soumaré, bonsoir.
Bonsoir,
membre du PS.
Sympathisant.
Consultant.
Consultant, ça c'est le 90% de ma vie en ce moment. C'est le voilà.
Europe Écologie Les Verts, Mehdi Bellavas.
Oui, pas que.
Mais pas que.
Pas que, tout à fait.
Oui, vous avez raison. Ouais, ça va
sur les questions de Marielle. Ça va très très bien.
Depuis Perpignan,
et ouais. En visite à Paris.
Maître David Libeskind, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, avocat.
Ça va. Toujours avocat, ça va.
Ancien, évidemment, celui qui a défendu très longtemps les Gilets jaunes.
C'est bien la constance.
Ouais, c'est bien la constance. Autre consultant.
Hein,
Farid Tamsamani, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Très bien.
Spécialiste de l'Afrique notamment. Messieurs, nous allons juste un petit tour de table. Il a laissé un héritage, Ali Soumaré. Petit tour de table, un petit mot sur Robert Badinter.
Complètement, je crois que là, si je cherche... Évidemment, Michel Taube, il est bon mot... Des bons mots, c'est une grandeur d'âme, mais c'est, je veux dire, pour nous qui sommes engagés en politique, enfin, je veux dire, s'il y a bien l'incarnation de ce que c'est qu'être engagé en politique, enfin, il en est dans le podium des trois personnes en France, je pense qu'il en fait partie, c'est-à-dire qu'il est vraiment la traduction même de l'engagement au sens noble du terme, hein, je parle bien au sens noble du terme, notamment par rapport aux combats qu'ont été cités, donc voilà, et je retiens aussi, parce que moi je suis très très fan là, de ce type de personnage-là, c'est un homme de mots, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mot juste, l'éloquence
qui était il y avait du niveau à l'époque, voilà,
Exactement.
L'éloquence, elle était là quand même, voilà, hein, l'Assemblée nationale, les jeux de mots, les passe-passe, etc. Mais dis-moi la baisse alors.
Moi, vous savez que je suis agent du ministère de la Justice et je suis particulièrement en plus sur une mission qui s'appelle le développement du travail d'intérêt général. Je suis référent territorial du TIG pour les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et le TIG est une création de Robert Badinter en 1983. Et la dernière fois que je l'ai vu, moi, il intervenait en visio dans une journée nationale du TIG à Paris, c'était l'année dernière. Il était affaibli, mais il était quand même intervenu en visio pour rappeler que c'est la première peine d'alternative à l'incarcération, le travail d'intérêt général, où on peut réparer le délit, l'infraction qu'on a commis, le trouble à l'ordre public par un travail au sein d'une collectivité, au sein d'une association.
Maître voilà. David Libeskind.
Et moi, tous les jours, dans mon travail, on parle de Robert Badinter parce que c'est le père de cette peine. Voilà.
Effectivement.
Ouais,
c'est une manière aussi de lui rendre hommage tout le temps en permanence.
C'est ça.
Maître David Libeskind.
Je crois que Michel Taube, il est assez complet. Bon, moi, c'est un confrère. Donc, évidemment, je suis vraiment peiné. Et puis, tous les avocats, il n'y a pas que les avocats, ça va au-delà, évidemment. On admire son combat. Alors, c'est pas forcément le combat, un combat politique, peut-être. Que
et puis un de ses
politique.
Combats aussi, le dos aussi à son
mais
père. Hein.
Un combat pour,
il l'a dit Michel Taube voilà, durant la soirée.
Pour les droits de l'homme et en fin de compte.
C'est ça,
qu'il ait fait voter l'abolition de la peine de mort, il a continué ce combat et ça c'est admirable. Ah, ouais. Quoi.
Farid Tamsamani, je lance la pause.
Oh, beaucoup de choses ont été dites. Hein. C'est clairement quelqu'un qui a marqué de son temps l'histoire contemporaine du pays. Il a réussi à mettre son nom sur l'abolition qui avait été tant tentée. Mais qui n'avait jamais réussi dans notre pays. Alors c'était une promesse effectivement de François Mitterrand. Voilà, il avait ce combat universaliste. Et c'est ce que moi je retiens, c'est profondément un humaniste, universaliste. Et il a réussi là où beaucoup ont échoué. Et surtout, il avait ça en lui, c'est-à-dire que la défense de l'intérêt général. Et Michel Taub a parlé notamment de l'Afrique. Il a eu, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire africaine, il avait défendu, alors j'ai oublié le nom de ce ministre, face à Senghor au Sénégal dans les années 60, qui avait été accusé de tentative de coup d'État. Et c'était lui qui s'était déplacé à Dakar pour pouvoir défendre ce ministre.
Respect. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après. Ndiaye, exactement. Moi aussi, je cherchais. Vous savez que je cherchais depuis tout à l'heure. Maintenant, on m'a dit ça. On marque une pause, messieurs, et nous allons revenir dans une poignée de minutes, justement, pour parler de ces sujets qui fâchent ou qui fâchent pas, mais en tout cas qui font débat, n'est-ce pas ? À tout de suite. Restez avec nous.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Et les 19h20 précisément. Et vous savez quoi ? C'est les informés des quartiers, hein. C'est parti tout de suite.
Les informés. Le face-à-face.
Et quand on dit les informés des quartiers, priorité, tout de suite, direction Grenoble. Qui connaît Grenoble ? Vous connaissez ?
Tout le monde.
J'aime bien Grenoble, c'est une belle ville.
C'est une belle ville, surtout quand on sort de la gare, on voit la montagne.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Je conseille aux gens, quand on est à Grenoble, d'aller déjeuner ou dîner à la Bastille, sur les hauteurs de Grenoble. On y mange la meilleure, si je ne dis pas de bêtises, la meilleure.
La meilleure quoi ?
Oh, j'ai oublié ce plat à base de pâtes. De pommes de terre.
Imad va nous le dire, Imad. Vous connaissez cette spécialité-là à base de pâtes ?
Exact, le gratin dauphinois, bien sûr.
Extraordinaire. On peut l'applaudir. Alors, vous connaissez l'adresse endroit. De Farid de Temsamani, pardon ?
C'était où l'endroit ?
À la Bastille.
À la Bastille, la Bastille, on a le téléphérique.
Exactement, on y monte par le téléphérique.
On a un connaisseur, hein, c'est Farid. Hein.
Là-bas, c'est ce rendez-vous. Hein.
Là, tu vois ?
Ouais. Bien, Farid. Ah. Hein. Vous avez les bons tuyaux, les
bonnes adresses.
Pour bien manger, vous pouvez m'appeler.
Exactement, pour bien manger, on apprécie la vie. Tous ceux qui aiment bien. Imad, on vous écoute, bienvenue de Grenoble.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous les invités.
Bonsoir.
Je vous dirais, j'ai juste envie de m'intervenir sur ce sujet aujourd'hui.
Oui.
En fait, j'avais appris ça aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu sur la radio, parce que j'étais sur la radio toute la journée. Je fais beaucoup d'interventions, je suis électricien. Et j'entends parler de ce monsieur aujourd'hui, en fait, ça m'a fait rappeler un truc. Donc, en fait, mon rêve, c'était toujours être, un juge, tu vois. Ouais. Et j'ai grandi, en fait, dans un truc où ma mère, elle a toujours dit, mon fils, j'aimerais bien être un juge un jour, mais bon, j'étais en électromécanique. Et j'ai entendu beaucoup parler de ce monsieur aujourd'hui. Je l'ai jamais connu, jamais parlé de lui. Mais en fait, j'ai appris ça aujourd'hui. Et franchement, paix à son âme, déjà en premier. Et du coup, sur la peine de mort, en fait.
Effectivement. Allô ? Oui, on est là, on vous écoute. Ouais. Vous parlez de Badinter, monsieur Badinter.
Voilà, et moi, je suis beaucoup sur des trucs comme ça, pour les droits, des trucs comme ça, parce que j'avais connu une personne qui déjà était innocent pendant 10 ans. Et après, on a appris qu'il était innocent. Et en fait, je vous dirais... ça m'a fait inspirer d'un truc, en fait, de Khalifa Omar al-Khattab. C'est lui qui a aboli la peine de couper le bras. À son époque, c'était aboli. Donc, en fait, lui, s'adaptait à l'époque de qu'est-ce qu'il vécu ? En fait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté. Donc, il a aboli la peine de qu'on coupe le bras.
Donc, exact.
Et je me demande aujourd'hui, 2023, pourquoi il y a des pays comme l'Égypte qui ont cette peine aujourd'hui.
Ça veut dire que dans votre tête, vous n'avez pas fait le passage de 2023 à 2024, puisque vous parlez encore de
2024, excusez-moi.
Ah, quand même, rassurez-moi. 2024. Si vous me dites que vous êtes resté bloqué en 2023, ça m'inquiète.
Il y a encore en 2023, c'est pour ça.
Bah écoutez, vous avez raison, vous soulevez, vous savez qu'il y a certains pays dans ce beau continent, effectivement, qu'est l'Afrique, mais pas que. On a aussi en Asie, on a aussi aux États-Unis, l'Amérique du Sud. Ouais. Vous savez, ou encore l'abolition, effectivement, pose question. Merci Matt de Grenoble, et on viendra. Merci d'être intervenu. Et puis on retient cette bonne adresse proposée par Farid Temsamani.
Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée.
Je vais prendre encore quelques éditeurs et on va, parce que c'est les informés des quartiers et j'aime bien. Là, vous savez quoi, on passe de Grenoble à Toulouse. Encore une bonne adresse, Farid ?
Oui, forcément.
Une bonne adresse.
Non, mais il y a plusieurs adresses à Toulouse.
Alors,
il y en a beaucoup.
Laquelle ?
Non, j'en ai pas une en particulier.
Ils connaissent.
Il y a de très très bons restaurants à Toulouse.
Ah, c'est dommage. Vous n'avez pas fait le coup de Grenoble. Sofiane, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est la bonne adresse à Toulouse?
Bon, désolé, il y a un peu d'écho, ça se trouve, je rentre du travail.
Mais il n'y a pas de souci. Alors, on vous écoute, mon cher Sofiane.
Bon, moi, je voulais m'exprimer par rapport à ce que disait tout à l'heure la personne juste avant. Moi, j'ai commencé à m'écouter avant d'écouter son prénom. Donc, après Imad. Avoir son prénom.
Oui.
Et donc, oui, il a totalement raison. Omar Al-Khattab, il a aboli la peine pour couper le bras. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de pauvreté. Il y a quelqu'un qui a volé apparemment un bout de pain. On voulait lui couper le bras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, je trouve ça dommage que dans certains pays, on applique quand même des peines qui sont très, très sévères. Et surtout, même dans l'islam, ce genre de peine, il n'est pas applicable sous, il est applicable sous certaines conditions qui sont rarement réunies ensemble. Donc voilà ce que je voulais dire. Je sais pas
pour ne pas dire jamais, hein. C'est vrai. Quasiment jamais.
Bah, c'est presque jamais, voilà. C'est jamais réuni. Déjà, il faut réunir les quatre témoins et ainsi de suite. Et voilà.
Ben merci, Sofiane de Toulouse.
Merci beaucoup. Ben, ça faisait longtemps que j'essayais de.
Ben, je sais, mais il faut insister. Je sais que ça appelle beaucoup. Ouais, il faut insister. En tout cas, merci pour votre fidélité.
Voilà.
C'est parti, messieurs.
Merci beaucoup.
Virgule. Et ensuite, on attaque tout de suite le premier sujet. 01-53-48-3000, vous continuez à nous appeler tout de suite avec messieurs autour de ce plateau. Allez, Soumaré, je vous donne la parole, remaniement et la composition complète du gouvernement Attal 2. Justement, que peut-on dire et que peut-on retenir et que peut-on, évidemment, quelles sont les différentes interprétations qu'on peut avoir concernant les différentes nominations?
Tout ça pour ça, ce serait peut-être le terme. Il n'y a pas beaucoup de changements. Je vais pas, que de toute façon, je suis pas dans l'exercice de représenter un parti politique, mais quand même, c'est le cap qui est le plus important que les individus. On peut noter qu'effectivement, symboliquement, le sujet de l'éducation nationale, quand même porté par quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est elle-même suicidé, bah, c'était un peu quand même compliqué. Mais sinon, globalement, moi, je trouve qu'il y a pas. J'étais même étonné d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est plus un jeu de chaises musicales où on a changé un peu, on a bougé des gens. Alors, il y en a qui ont eu des promotions, il y en a qui ont été promus, mais globalement, pour moi, il n'y a pas de grand changement.
Est-ce que les quartiers ne sont pas un peu les oubliés?
Oui et non, parce que comment ça se traduirait? Quand je dis oui et non, encore une fois, moi, je défends pas du tout. C'est-à-dire que les quartiers sont toujours les grands oubliés. C'est-à-dire si on le prend comme ça, oui. Mais à la limite, c'est pas dans une traduction d'intitulé de ministère qui est le plus important. C'est dans les moyens et dans le paradigme qui peut ou pas changer. Et le paradigme, force est de constater que pour l'instant, il ne change pas sur la manière dont on a de percevoir les quartiers populaires, ou en tout cas ce qu'il faudrait y faire.
Mehdi Benabbas, on fait un tour de table.
Non, mais de mon point de vue, on change les personnes, on prend les mêmes, on recommence. La question, c'est celle de la ligne politique. Et la ligne politique, malheureusement, on la connaît et elle ne changera pas. On peut changer des ministres, pour moi, qui sont relativement toutes et tous interchangeables, avec une prime aussi à un virage à droite de ce gouvernement Attal qui a été marqué. Avec l'arrivée de ministres, d'anciens ministres sarkozystes au sein de ce gouvernement. Donc il n'y a pas grand-chose, je pense, de nouveau. La ligne, elle viendra toujours de l'Élysée. Gabriel Attal est un collaborateur du président de la République, comme un autre.
Il est nommé.
Oui, nommé au Premier ministre, mais tout se décide à l'Élysée et non pas à Matignon. Voilà.
Bon.
Et ce gouvernement n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. On aura les mêmes blocages, avec déjà des distorsions avec le MoDem d'ailleurs. Faut en parler ça aussi, du refus de Bayrou d'entrer dans ce gouvernement, de François Bayrou.
Europe Écologie Les Verts, ils maintiennent le cap, hein, dans les éléments de langage. Hein. Je vois ça.
C'est la logique.
Ouais. Maître David Libeski, ensuite Farid Tamsamani.
Je ne sais pas de quelle ligne politique tu parles, parce que moi, c'est bien le problème, je n'en vois pas, quoi. Il n'y a pas de cap.
Ou là, ça tacle.
Non, c'est mais c'est pas pour te contredire.
Ouais,
mais
on est d'accord, mais on est d'accord.
Tu vois, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de ligne politique. Alors, il y a 19 ministres délégués, secrétaires d'État qui ont été nommés. Donc, c'est plus un gouvernement élargi, parce qu'au début, on avait parlé d'un gouvernement restreint. Donc, c'est quand même assez élargi. Il y a Horizon, il y a Frédéric Veltou, qui est ministre délégué à la Santé. Donc, apparemment, M. Macron a peur que Horizon le lâche. Une partie donc de sa majorité le lâche. Alors, le très mauvais signe pour les quartiers populaires, parce que... Très mauvais signe, j'ai pas le souvenir, en fait, qu'il y ait un ministère de la ville. Hein,
Si, il y a un secrétariat d'État avec...
C'est pas un ministère, c'est un secrétariat d'État.
C'était déjà le cas auparavant,
Oui, je suis d'accord, mais bon, on a connu des périodes où il y avait des ministres de la ville, donc...
Monsieur Klein.
Qui pouvaient avoir un poids peut-être... au Conseil des ministres, mais le très mauvais signe pour les quartiers populaires, pour les personnes modestes, c'est Guillaume Gasparian, qui a été nommé ministre de logement, donc c'est quand même un ministère important.
Bah, il pèse au sein du Parlement.
Voilà, pour les populations député précarisées, mais qui, le rappelle, était à l'origine de la loi anti-squatteur. Hein, donc,
c'est un Marseillais, lui, non ouais. Il est pas Marseillais, il est Marseillais, il me semble. Il est Marseillais,
à l'origine de la loi anti-squatteur. Donc le mettre ministre de logement, c'est presque une provocation, quoi.
J'aime bien. Bon, je m'attendais pas à autre chose de votre part. Farid, t'aimes
ça,
Manu.
Mais c'est pas vrai, ça. Attends, non, mais. Ministre du logement, quelqu'un qui a l'origine, en fait, de la loi anti-squat.
C'est tout le paradoxe.
C'est tout un programme. C'est pas un paradoxe, c'est tout un programme.
Ça a été reçu de manière très insultante par un certain nombre d'associations, effectivement, là-dessus.
Oui, tout à fait.
Sur ce remaniement, il faut quand même dire que c'est la première fois depuis très très longtemps, je crois que c'est la première fois sur la 5ème République, où en fait on a mis autant de temps pour composer un gouvernement. Ça montre à tel point l'engouement des uns et des autres à rentrer au gouvernement, selon moi. La deuxième chose, c'est que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en réalité, il n'y a pas besoin forcément de gouvernement, puisqu'en fait tout se décide à l'Élysée. On a depuis, je crois que ça c'est aussi la première fois, enfin c'est pas Gabriel Attal, mais je crois que les conseillers de l'Élysée sont les mêmes à Matignon et à l'Élysée, alors soi-disant pour fluidifier les choses, mais ça veut dire qu'en réalité Matignon ne pèse pas grand-chose dans le jeu politique de la majorité. Et pour moi, le véritable indice de ce remaniement-là, c'est la sortie de Bayrou du MoDem. La réalité, alors sortie hypocrite, parce que en réalité il critique de manière assez lourdement la politique d'Emmanuel Macron, mais à côté de ça il dit on reste dans la majorité et on maintient les ministres, parce qu'il faut quand même manger tout ça. Donc la réalité pour moi c'est ça, c'est la préparation de l'élection présidentielle à venir. Et c'est toujours très malheureux lorsqu'on est président en exercice et que on arrive sur une non-représentation, c'est-à-dire que le cas de Macron, c'était le cas de Chirac.
Surtout quand on a 46 ans.
Exactement.
Aujourd'hui.
Et en réalité, vous allez avoir de plus en plus de sorties de route de gens qui vont vouloir s'imaginer un destin, et que donc du coup l'aura ou en tout cas l'autorité du président de la République va petit à petit diminuer.
Diminuer, messieurs, vous savez quoi, je vais aussi interpeller nos auditeurs 01 53 48 3000. N'hésitez pas à venir nous faire part de votre opinion, de témoignage notamment sur ce remaniement ministériel, ce gouvernement qui était, comme le rappelait Farid, qui a traîné, effectivement, il s'est fait désirer. Nous allons parler en attendant vos appels. Solal vous accueille au 01 53 48 3000. Je voudrais aller direction Toulon, justement, où on a une fréquence sur le 98.2. Beaucoup d'auditeurs, bah tiens, là aussi je vous sollicite, il y a un vrai problème avec les médecins. Et les médecins qui ont décidé, ça y est, c'est de façon ferme et radicale, qu'ils ne se rendront plus dans certains quartiers après l'agression d'un médecin, d'un docteur. Alors franchement, je vous pose la question et on fait le tour de table. Il faut mettre, qu'on mette les pieds dans le plat. Parce que là, il y a un vrai souci. Est-ce que ça ne vient pas condamner justement, parce que j'imagine que c'est une minorité qui... demain, s'il y a un souci, comment ils vont faire les parents, Farid Temzamani?
Vous savez, il y a quelques années, on m'a...
Je vais lui donner la parole d'un côté, mais bon, c'est pas...
J'ai un ami médecin qui est au SAMU du 93, de Seine-Saint-Denis. Et un jour, il me raconte une histoire. Il prend son service en fin d'après-midi et il s'aperçoit qu'il y a un patient qui a appelé peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois au Bedotte, au Sevran, pour pas le saluer.
Oui, non, j'allais t'en parler.
C'est cette histoire.
Moi, c'est à l'époque, c'est Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, l'ancien maire de Sevran, qui m'en avait parlé.
Alors, du coup, le médecin en question, c'est un ami, et il comprend pas. Il dit, il y a pas de raison que personne y aille, parce que ses collègues, personne n'avait voulu y aller, parce que à l'époque, en tout cas, il se faisait agresser à l'entrée des Bedottes.
Et ça condamne les parents.
Ce monsieur-là, qui avait en fait une crise aiguë d'appendicite ou quelque chose comme ça, était à quelques minutes quasiment de la mort. Et en fait, quand il y a des agressions comme ça, en fait, on condamne toute une population.
Bah oui, clairement.
C'est ça. Et il m'avait raconté, on y est allé en ambulance, etc. Et j'ai dû parlementer au téléphone avec quelqu'un qu'on avait en commun pour discuter avec celles et ceux qui, enfin surtout ceux qui tenaient l'entrée du quartier, c'est même pas le même, ouais. du quartier, pour dire voilà, en fait, on ne rentre pas. Et c'est assez malheureux parce que vous avez des gens assez complètes, parfois pas très souvent des gens qui ne vivent pas là-bas, qui ne sont pas du quartier et qui vont condamner tout un quartier parce que cette personne-là aurait pu mourir. Et j'imagine qu'il y en a d'autres comme ça.
Et ben on va en parler justement, et notamment condamner les parents, condamner les familles, mais surtout la question. Alors, c'est peut-être pas l'uniforme qui pose problème. Je suis en train de me poser la question, est-ce que finalement ces jeunes n'ont pas un problème avec l'État tout court ?
Non.
Voilà, c'est même pas l'uniforme, c'est l'État. La question que je pose. Et puis vous, je vous attends au 01 53 48 3000.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h, 20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Messieurs, le débat continue avec Ali Soumaré, avec Mehdi Belabbès, avec Maître David Libeskid, avec Farid Tamsamani. Tiens, Maître David Libeskid, j'ai une surprise pour vous.
Ah bon ?
Vous aimez les surprises ou pas ?
Oui, mais je crois que je la connais.
Attendez, on va le laisser. Tenez, j'ai quelqu'un en direct, c'est une surprise en direct. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi.
Ouais.
Bonsoir. Je ne dis pas votre prénom ni le nom, juste à la voix. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Fawzi.
Ah, il l'a reconnu.
Fawzi Lelouch,
vous savez que ça me fait plaisir de vous avoir parce que vous êtes quelqu'un qu'on apprécie énormément. Tiens, on parlait de Sevran. Et ben vous savez, voilà.
On va parler du
Bedok. Mehdi.
Ouais, je suis là.
Voilà une personnalité de Sevran.
Ouais.
Fawzi Lelouch.
Bonjour Fawzi.
Éducateur, président d'association.
Bonjour à tous. En tout cas, je vous embrasse tous.
Une personnalité engagée. On parlait, vous savez, de qui ? L'ancien maire Stéphane Gatignon.
D'accord.
Ouais.
Ouais,
enfin,
ça fait beaucoup de choses sur la ville.
Ça fait beaucoup de choses, ouais. Dites-moi, vous souhaitiez dire un mot sur Robert Badinter. Je sais que vous avez un attachement particulier, justement, et je voulais que vous passiez à l'antenne. Allons-y.
C'est gentil. Bah, c'est gentil de me donner la parole. Je vous ai écouté tout à l'heure. Vous avez dit déjà beaucoup de choses qui sont valorisantes concernant cet homme. Cet homme qui, je m'étonne aujourd'hui qu'en politique, on trouve plus ce genre d'homme. Je pense qu'il lui arrive pas à la cheville. Il lui arrive même pas au bout des ongles. C'est un homme qui était plein de convictions, qui était engagé, qui allait au bout des choses, qui défendait tout le monde, qui défendait au-delà de ce qu'on peut penser par rapport à des personnes qu'on peut mépriser ou quoi, il leur accordait quand même la possibilité d'une défense, qui est un droit constitutionnel et un droit en France, un droit pour les hommes. Il a toujours défendu toutes les causes, qu'elles soient de n'importe quelle confession. Il s'est élevé aussi contre l'antisémitisme, mais contre aussi l'islamophobie. Il en avait marre que les gens se critiquent entre eux. Il a fait énormément en politique. Il a été exemplaire. Il a fait bouger les lignes. Il a fait bouger notre constitution. Il a permis que des hommes ne soient pas assassinés, qu'ils effectuent une peine. Il a, avec toutes les difficultés de l'époque, pour réussir à ça. Et je pense que il y a très peu d'hommes qui lui ressemblent. Nous, dans l'islam, moi je suis musulman, on dit que celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Je pense que c'est un grand homme et je pense que voilà, je lui souhaite la paix pour l'avenir et de un homme comme ça, il doit aller au paradis pour moi. Il n'y a pas d'autre chose à dire parce qu'il a fait le bien en défendant toutes les causes et il a montré ce que c'était que de défendre avec égalité, avec sincérité, avec conviction, ce que aujourd'hui il nous manque énormément en politique et je pense que vous l'avez dit. Les hommes d'aujourd'hui qui nous représentent en politique, enfin qui nous représentent, qui sont censés normalement nous représenter, mais qui ne le font plus, je pense que cet homme-là s'est battu aussi pour les plus faibles, pour des gens qui étaient invisibilisés, des gens qui étaient dans la détresse, dans la peine et dans la souffrance et qui n'avaient pas forcément toujours la possibilité de pouvoir se défendre, des gens qui étaient incarcérés, des gens qui sont... des minorités, mais qui sont à la fois maintenant aujourd'hui des majorités. On peut le voir dans les quartiers, on peut le voir dans nos provinces.
Effectivement, voilà, merci Fawzi Lellouche d'être voilà, intervenu et vous êtes un, rappelons-le, une figure emblématique hein, qui a retenu toute l'attention pendant la période des Gilets jaunes, parce qu'il s'est battu le Fawzi Lellouche. Hein. C'est vrai, vous, c'est comme ça que ouais, vous êtes connu. Hein.
Oui, tout à fait.
S'est battu
ouais,
lui, il s'est bataillé quand même. Bah, oui, bataillé, on a entendu ouais, sa voix avec, d'ailleurs, avec Rodriguez, non
ils étaient deux. Il est en ligne là, Fawzi.
Il est là, bien sûr.
Fawzi rappelle en fait ce qu'a dit décider la Cour européenne des droits de l'homme, c'est peut-être important de le dire à l'antenne.
Tu peux le dire. Hein,
récemment.
Ils ont interdit les NAS. Ils ont interdit les NAS tout simplement par tout ce qui est préfecture, police, voilà. Alors, ils ont été condamnés.
C'est important de le dire parce que ça fait 5 ans, en tout cas depuis le mouvement des Gilets jaunes, on dénonçait cette pratique policière abusive de nasser les manifestants, les encercler. Et donc voilà, la Cour européenne a répondu, elle a dit qu'en fin de compte, la France était fautive oui, de pratiquer, d'avoir ce genre de pratique et a condamné la France.
Fawzi Lellouche, vous savez ce que je vous propose
je tiens juste à rappeler aussi que bah, du coup, ça nous permet à nous de nous conforter un petit peu dans cette bonne nouvelle suite à la plainte qu'on a déposée pour la date anniversaire il y avait eu la manifestation. Des premières années des Gilets jaunes à Place d'Italie, où on a porté plainte contre la préfecture, contre Didier Lallement et contre X, concernant le fait d'avoir mis en danger tous les gens qui étaient venus manifester et de nous avoir permis de pouvoir manifester notre liberté d'expression et la mise en danger de toutes ces personnes. Voilà, donc on
merci,
a porté
Fawzi,
plainte. Et du coup, la plainte est toujours en cours.
Voilà. Fawzi, merci infiniment. Je le rappelle, vous êtes éducateur, vous président d'association, personnalité engagée dans toutes ces questions d'injustice. Faut revenir sur le plateau, hein, Fawzi Lellouche.
Bon, avec plaisir, mais
vous savez ce que je kiffais, moi, par-dessus tout? C'était, vous veniez, en plus, il venait souvent les mains pleines, hein.
Ouais.
C'est ça, le sens de l'hospitalité iranienne.
Le sens de l'hospitalité sevranaise.
Sevranaise, en plus, il venait avec des msemen. Sevranaise. Ouais. Il est trop fort, le Fawzi Lellouche. Il est trop fort. Il me fait. Non, mais c'est vrai, il ramenait en plus. Vous savez ce qu'il faisait? Il ramenait le msemen, il ramenait du miel. Et il ramenait des petits pots de confiture, ouais, c'est à la fraîche.
Ah ouais.
Non, mais le mec, il faisait tout comme ça.
Alors, moi, je veux bien être invité quand il viendra.
Vous serez là.
Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Dès que je vais un peu mieux, avec plaisir.
Bon rétablissement, on vous embrasse.
Merci beaucoup, à bientôt et bonne émission. Moi, j'écoute.
Bah écoutez, restez à l'écoute. Allez, Fawzi Lellouche.
Merci.
Depuis ce moment.
Allez,
Soumaré, sur les médecins, sur les quartiers, sur les jeunes qui condamnent leur famille. Toutes ces questions, évidemment, qui fâchent. Parlons-en.
Ouais, je crois qu'il faut en parler. Et je pense que des fois, il faut aussi. Autant il faut pouvoir dire quand ça va pas dans les quartiers, au sens où on fait pas ce qu'il faut en matière de politique publique. Autant là, quand il y a des comportements comme ça, il faut aussi pouvoir les condamner sans mettre d'excuses. Parce qu'à la fin, c'est avant tout les parents, ça a été dit tout à l'heure, qui sont dans des problématiques, c'est ceux qui ont des problématiques de santé, c'est l'image de ces territoires-là, qui en pâtissent. Donc voilà, donc il faut pouvoir le condamner, et je pense que aussi dans les quartiers, on doit pouvoir se mobiliser aussi, je parle des habitants des quartiers, quand il y a des problèmes comme ça, pour dire non et stop. Évidemment, c'est à l'État, à la police de faire le premier des travaux, mais je crois qu'il y a un travail citoyen aussi qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir dire non, c'est pas possible, pas chez nous en tout cas.
Sauf que ça bouge pas.
Et voilà, c'est ça le
problème. Mehdi Benabbas.
Il y a parce qu'on parle des médecins, mais on aurait pu parler des pompiers aussi qui se font caillasser depuis maintenant un certain nombre d'années. On a un espèce de tabou aussi entre nous, moi je le dis avec les copains militants des quartiers populaires, où on n'arrive pas des fois à aussi dire là les gars, dans nos quartiers ça déconne à plein tube.
Pourquoi on a du mal
Parce qu'on veut pas stigmatiser, on veut pas rajouter une couche sur les problèmes de nos banlieues, de nos quartiers qui sont importants, parce qu'ils ont été abandonnés depuis des années, parce que l'urbanisme des années 70 il a fait des dégâts, parce que le non-entretien, le non-financement du logement social, il a entraîné une ghettoisation et la misère dans nos quartiers populaires. Mmh. Mais pour autant, derrière, le développement d'un certain nombre de réseaux mafieux, de trafic de drogue, qui gangrène nos quartiers, qui fait du mal, parce que c'est ça en fait. Hein. Tout à l'heure on évoquait sur le précédent, c'est gens qui viennent, qui s'installent, qui viennent d'autres quartiers, avec une logique de terrain, avec ce qu'on appelle les fours, qui sont ces points de deal, etc. Ça fait beaucoup de mal à nos quartiers. Et regardez, je vais vous donner.
Vous écoutez parler, j'ai l'impression que ça fait du mal.
Non, attendez. Je donne un exemple.
Ça fait du mal, mais en même temps, ces sujets tabous. Faut pas le traiter. Attention,
Adil, bah,
vous y
pas apparemment.
Ouais. Adil, oui, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut se dire. Regarde.
Avant, on pouvait
quand,
pas dire.
Quand on a un môme, je sais plus dans quelle ville là, un môme qui se fait tuer, qui prend une balle perdue suite à un règlement de compte, etc. On met pas les gamins des banlieues, ils mettent pas à Nîmes. En plus, c'est vers chez moi en Occitanie. On met. Il y a pas eu d'émeute. Il y a une petite marche blanche là-bas sur place, etc., etc. Le petit Naël, il se fait tuer par les par un policier dans des conditions inacceptables. Là, par contre, ça bouge un certain nombre de gens, etc., etc. Alors qu'il aurait fallu que de la même façon, on ait un mouvement qui bouge pour dénoncer le fait que nos petits garçons, nos petites filles, ceux qui se font
lors de fusillades, ou
alors lors des rodéos urbains.
C'est ça, la vérité.
Parce que combien d'accidents comme ça de rodéos urbains aussi.
Ouais, mais la vérité, faut le dire. Vous condamnez qui en premier lieu? C'est les familles, mon cher.
Ouais,
c'est le père de famille quand il tombe, quand il a une l'appendice aiguë et que il est à quelques minutes de mourir. C'est ça la vraie. Ça peut être ton père, ça peut être votre père.
Il faut accompagner les associations de quartier. Il faut donner des moyens aux éducateurs de quartier. Il faut donner des moyens quand même. À tous ces acteurs qui font de la proximité, parce que c'est ça aussi.
Ce que Mehdi dit là,
c'était très tabou il y a encore pas très longtemps. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, lorsqu'on évoquait, quand on avait ce discours-là, en fait, on se faisait taper dessus parce que justement, il fallait surtout pas le dire, parce que justement, à l'époque, qui le disait? Essentiellement des gens qui étaient peu fréquentables. Ouais, la réalité, c'est celle-ci. Or, les premières victimes dans nos quartiers de la délinquance, de la, bien sûr qu'elles ont des explications, bien sûr qu'il y a des causes, mais les premières victimes, ce sont d'abord les habitants qui ne peuvent plus supporter ce genre de choses. Et moi, je suis très heureux. Tu vois, on a évoqué malheureusement ce gamin qui est décédé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette fille à Marseille. Qui a pris une balle gratuite chez elle parce que le narcotrafic en fait était sur place. Et ben ces choses-là, à un moment donné, il faut dire stop. Et il y a eu des mamans très courageuses, notamment dans les quartiers nord de Marseille, qui ont créé des associations pour justement dire il faut arrêter.
Alors, mais attendez, Maître David Libeski, on l'a pas entendu, et je vous poserai la question: est-ce que les quartiers populaires sont prêts justement à lancer un appel et à les manifester tous pour dire stop? Je voudrais vous entendre, messieurs.
Oui. Après, le problème, voilà, faut pas être hypocrite, c'est que les habitants des quartiers populaires ont peur de se révolter. Ont peur, en fin de compte, de faire des manifestations, parce que les quartiers sont souvent tenus par, entre guillemets, évidemment, par des dealers. Mais dans ce cas-là, voilà, faut se révolter, faut que les habitants se révoltent. Mais après, quand on parle aux syndicalistes de médecins, hein, des syndicats de médecins, de toute façon, ils vous disent tous que le mouvement, il est quand même assez général. C'est-à-dire, ils sont face à des patients de plus en plus exigeants qui parfois les agressent et malheureusement, on ne respecte plus la profession de médecin. Mais concernant les quartiers, il n'y a pas que les médecins, il y a les pompiers, il y a les services
publics. Je ne suis pas sûr que ce soit l'uniforme. Moi, je pense que c'est l'État. C'est plus profond que
l'État.
Ça.
Non,
moi, je pense qu'on s'attaque à l'État. C'est tout ce qui représente l'État. C'est en gros, c'est la jeunesse a un problème avec l'État. Moi, je pense. C'est mon sentiment. Après, je peux me tromper.
Je l'ai dit à un moment donné. Il a raison parce qu'à un moment donné, moi, je me rappelle avoir dit à un moment donné, on me disait, et là maintenant, on est un peu plus mature là-dessus. Il y a aussi des comportements déviants dans nos quartiers. Il y a des rapports.
Il
y a un rapport à la violence.
Il propose une solution.
Il y a un rapport à la violence.
Est-ce que les quartiers sont prêts à se mobiliser? Je vous pose une question. Elle est très simple.
C'est pas que ça.
Non, mais attendez, Ali Soumaré. Tu le connais.
Vas-y,
il est bien. Est-ce qu'ils sont prêts, les quartiers populaires? Je vous le dis clairement. Est-ce qu'ils sont prêts à se bouger?
Les
vous dites non. Mais attendez, on va les entendre, les acteurs. Est-ce qu'ils sont prêts à bouger, dire stop?
Si, ça commence à évoluer. Pas suffisamment, je suis d'accord.
Maître David,
ça commence à évoluer. Je prends un exemple aujourd'hui à Villers-Belle, dans le quartier dans lequel je suis originaire, où tout le temps je passe les week-ends avec mes parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de rodéo sauvage parce que la plupart, on a des enfants. Et il est hors de question que nos enfants ils se fassent tamponner. Et
pour le coup, là, on parle des médecins.
Bah voilà,
je pense que c'est le début.
Il vous donne un cas de figure concret.
Mais là, c'est des rodéos. Pas comparer les.
Non, mais je suis d'accord, mais je parle dans le fait de la prise de conscience.
Pour répondre à ta question, est-ce que les militants, les habitants des quartiers populaires sont capables de se mobiliser? Moi, je pense qu'ils se mobilisent. Il y a plein d'initiatives dans les quartiers. Que ce soit les habitants qui s'installent dans les halls d'immeubles avec des cafés, des trucs en Seine-Saint-Denis, ça s'est fait. Que ce soit l'association Le Front des Mères, par exemple, de la copine Fatima Wassak à Bagnolet. Il y a plein d'initiatives partout en France. La question, c'est pas est-ce que les quartiers sont prêts, c'est est-ce que les institutions françaises sont prêtes à écouter les besoins des quartiers populaires et à y répondre.
Bah peut-être
en finançant des nouvelles
politiques. Peut-être qu'en créant le rapport de force, ils seront écoutés.
Ouais, mais le rapport de force, il se crée. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il y a des militants.
Oui, mais il y a quand même une maturité. C'est pas suffisant, mais il y a une maturité aujourd'hui qui n'existait pas encore il y a quelques années. Et t'avais raison de le dire. Ne serait-ce que dans le fait, à un moment donné, de dire, à un moment, peut-être qu'on n'a pas suffisamment eu de rapport de force parce qu'on n'était pas suffisamment rassemblés. Parce qu'on a aussi œuvré des divisions entre nous, hein. Je parle habitants des quartiers. Et moi, je trouve, c'est pas suffisant, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même cette maturité qui commence à un peu faire changer les choses. Pas suffisamment.
C'est parce que nous aussi, on vieillit, Ali. C'est pour ça.
Sûrement.
Farid, mais clairement, dans tous les quartiers de France, objectivement, vous avez des gens qui se prennent en main pour justement dénoncer ça. Oui. La difficulté qu'il y a, c'est que, il y a une précarité telle que vous n'êtes pas à l'abri de gens. On va pas refaire ici l'histoire des quartiers, les familles monoparentales, les gens qui caillassent des pompiers ou des médecins, c'est quasiment une petite minorité, mais le problème c'est que derrière ça salit tout un quartier.
Minorité qui condamne.
Pourquoi les habitants se révoltent pas?
Vous avez parlé de l'exemple du père de famille.
Moi je vais te dire, moi
j'ai le droit de mourir parce qu'il a la pagesse aiguë.
J'ai grandi dans un quartier où les médecins, où un médecin à une époque s'était fait voler, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup d'espèces, il s'était fait voler sa recette, il s'était fait frapper, etc. Je peux te dire que nos grands à l'époque, lorsqu'ils ont fait l'enquête et ils ont découvert qui c'était, je peux te dire que, avant même d'aller voir les parents ou quoi que ce soit, ils lui avaient mis sa correction, exactement.
Très haut, comme on dit. Très court. Très court.
Ça s'est calmé au Val-Forêt.
Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci infiniment. Merci Ali Soumaré. Vous reviendrez, j'ai bien compris, quand tu auras Faouzi Lelouch.
Ils
vont manger les crottes, il veut du miel, il veut les... depuis Perpignan.
Bah ouais, il faudra parler un jour justement de ce qui se passe en province.
Faut intervenir depuis Perpignan. Ouais, n'attendez pas de venir depuis Perpignan.
Nous on est là sur la sécheresse, tout ça, sur les problèmes écolo.
Je vous ferai intervenir depuis Perpignan.
Bon, il faut en parler. On a eu 27 degrés.
La ville qui fâche.
On a 27 degrés ce week-end.
27 degrés
en Pyrénées-Orientales.
C'est dingue.
Voilà.
Et on a 5, j'arrive alors. Je viens
on
ce côté chez
nous. On a 5 communes qui ont des problèmes d'alimentation en eau.
Il y a un problème de réchauffement climatique là.
C'est ça.
Maître David Libeski, à bientôt.
À bientôt.
Farid Temsamani, à bientôt.
Avec plaisir.
Merci à Solal à la réalisation. Merci infiniment. Time Sport. Bilal Lenman, le voici, le voilà, qui prend le contrôle, qui va parler de la CAN, messieurs. Vanessa, 21h jusqu'à 23h, et tous les programmes qui continuent tout ce week-end. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.